Nous fêtons aujourd'hui l'ascension du Christ vers son Père et notre Père. Interpellés nous aussi par les deux hommes en vêtements blancs, nous nous demanderons s'il faut rester là à regarder le ciel ou s'il nous attend en un autre lieu. Que ce temps de méditation ouvre nos regards à cette présence toujours nouvelle. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi, réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. » Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui était enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. »
Thank you.
Il est vrai que la fête de l'Ascension ne joue pas un rôle très important dans la vie de notre Église. Mais il faut rappeler qu'autrefois, cette fête a été le sujet d'âpres batailles théologiques. Par exemple, entre les réformateurs Zwingli et Luther. Le premier, Zwingli, soutenait que Jésus, étant monté corporellement au ciel ce jour-là, ne pouvait se trouver que symboliquement présent dans le pain et le vin de la scène. Pour Luther, au contraire, l'ascension ne représente pas le départ corporel du Christ, mais signifie qu'il se trouve désormais au-dessus et dans toutes les créatures. Ce qui permet à Luther, du coup, d'affirmer la présence réelle du Christ dans et sous les éléments du repas du Seigneur. Ces disputes nous font peut-être sourire ou nous laissent perplexes, voire indifférents. Néanmoins, elles ont le mérite de nous rendre attentifs au caractère insaisissable de Jésus. N'avons-nous pas tous soupiré après l'absence de notre Seigneur, alors que d'autres fois, nous avons eu l'impression qu'il était là parmi nous, au point qu'on pouvait presque le toucher. Troublante absence et bienfaisante présence. Comme pour les disciples réunis, le Christ ne nous offre qu'une trace de son passage. Au cours de ce fameux repas rapporté par Luc au début du livre des Actes, dans le sillage de sa présence, les disciples sont remplis de joie, convaincus que le souffle de Dieu va désormais ouvrir à nouveau devant eux les chemins visibles d'une vie possible avec le Maître. Mais très vite, ce dernier s'échappe à nouveau. Car Jésus passe. Il est comme le vent, comme le temps. Il est comme la vie, impossible d'arrêter sa marche en la fixant dans des moments de présence figée. À peine a-t-on pris conscience de son passage qu'il est déjà passé, qu'il s'est déjà projeté au-devant de nous et qu'à vouloir saisir quelque chose de sa présence, nous nous condamnons à ne laisser couler entre nos mains que le sable de nos souvenirs. Il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, s'exclame Pierre sur la montagne de la Transfiguration. Mais bientôt la nuée se retire, ne laissant qu'un Jésus seul, sans gloire ni interlocuteur. Reste avec nous, prient les pèlerins d'Emmaüs. Reste avec nous afin que nous t'ayons à portée de main comme au jour d'autrefois. Mais Jésus disparaît, sitôt reconnu. Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume pour Israël? Interrogent les disciples lors de cette dernière entrevue rapportée dans le livre des Actes. Jésus, sois notre roi et viens trôner au milieu de nous. Comme nous, les disciples attendent la venue du royaume. Comme nous, ils attendent une présence avec tout ce que nous y projetons, la paix, la liberté, la prospérité, le bien-être, la justice. Telles sont les frontières du règne de Dieu, les noms d'une plénitude en creux inscrites dans nos cœurs, comme un manque, une faim, une soif intolérable. En effet, si la résurrection de Jésus inaugure le royaume, alors où est-il ce fameux royaume? Et pour quand est-il? À cette dernière question, pour quand est-il? Jésus répond non pas « Vous ne saurez ni le jour ni l'heure » comme il l'avait fait avant la croix, mais « Vous n'avez pas à connaître les temps et les moments. » Car hier, aujourd'hui, demain, en tout temps et à tout moment, le règne de Dieu inauguré sur la croix peut désormais s'approcher de nous. Quant à la question « Où est-il ?», ce sont les hommes aux vêtements blancs qui répondent. « Pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Certes, le règne de Dieu est inauguré, mais que faire? Regarder vers le ciel? Non. Construire ce royaume de nos propres mains comme si Jésus n'était que le représentant des pouvoirs divins venus en poser solennellement la première pierre? Non plus. Car c'est bien Dieu qui fait advenir son règne. Un royaume inauguré qu'il faut attendre. Mais notre attente ne consiste pas à regarder les yeux rivés vers le ciel comme si nous craignions qu'il ne nous tombe sur la tête. Attendre dans la crainte de savoir si nous serons assez purs, assez méritants, assez saints pour être dignes d'en recevoir la citoyenneté, avec la peur de rater le moment propice où il nous faudra nous décider ou non sa faveur? Non. En Jésus-Christ, Dieu a mis une croix sur ces exigences-là. Notre attente ne consiste pas non plus à construire nous-mêmes ce royaume sur la terre comme une sorte de substitut de l'absence de Dieu et de son Christ, comme un succès d'année de leur présence, ou dans l'espoir que, quand nos utopies auront été réalisées, nos idéaux concrétisés, nous pourrons toujours inviter Jésus à en prendre la tête. Non. Jésus nous invite à une attente sereine et active. Il confie aux disciples une tâche simple, mais capitale. Soyez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette tâche, c'est celle qui constitue l'Église. Diffuser le message joyeux et libérateur du règne de Dieu inauguré en Christ crucifié et ressuscité. Signifier concrètement cet avènement par le baptême et le partage du pain et du vin. Tels sont les signes de la proximité du règne de Dieu. Les signes du passage de Jésus-Christ parmi nous. Le royaume n'est pas à venir. Il vient ici et maintenant. Il s'approche de nous dans la parole prêchée, à travers l'eau de notre baptême, dans le pain et le vin pris en communion avec le Christ. Il en est du règne de Dieu comme de la présence de Jésus-Christ. Le passage de Dieu parmi nous nous dépasse au point d'être insaisissable. Tous les jours de notre vie, la joie peut se manifester au milieu des doutes et des questions. Quand vas-tu rétablir le royaume pour Israël? Cette plénitude entrevue dans des apparitions fugitives est pourtant signe d'éternité. Un jour viendra où elle nous sera donnée sans partage. En attendant, Jésus ne cesse d'inaugurer le royaume de Dieu en nous nourrissant de sa parole. Une parole qui nous réjouit et nous appelle au témoignage. Quotidiennement, le règne de Dieu s'approche de nous. Jésus, le crucifié, est le Christ ressuscité. Il vient, et c'est de son passage que nous devons témoigner en parole et en acte. Amen.
Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et mon le mien. Ce que j'ai, tu le possèdes, mais tu veux le recevoir. Conduis-nous, toi qui nous aides, à mettre en toi notre espoir. Le plus grand parmi les hommes, tu l'as dit, maître très doux. sera limpide, tout travail sera pour toi. Je suis prêt pour la bataille, sa douleur.
Je vous invite à la prière. Jésus-Christ, toi qui sièges à la droite du Père, vers toi nous élevons notre prière. Pour les contemplatifs, témoins de l'invisible dans un monde anxieux d'efficacité immédiate, mais aussi pour les hommes d'action, dont l'engagement stimule notre responsabilité à l'égard du monde, Seigneur, nous te prions. Pour les poètes et les artistes dont le rêve ouvre des brèches dans les murs qui ferment nos horizons, mais aussi pour les scientifiques dont la rigueur nous ramène à la dure réalité des situations, Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui croient à un monde meilleur, qui dénonce la médiocrité et les absurdités, mais aussi pour les techniciens qui cherchent à faire reculer les limites du possible, Seigneur, nous te prions. Pour ceux que les échecs et les déceptions risquent de mener au désespoir ou au fatalisme, mais aussi pour ceux qui, grisés par le succès, deviennent durs envers les autres. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui entreprennent et pour ceux qui abandonnent leurs projets, mais aussi pour les nostalgiques du passé et pour les impatients de l'avenir. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui pleurent un être cher, et en particulier, nous voulons te remettre ce matin Yona et Oshéa qui ont perdu cette semaine leur maman, Françoise Monet Deido. Seigneur, nous te prions. Nous te prions de les consoler et de les accompagner. Amen. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Telle est la promesse que Jésus a faite à ses disciples avant de retourner auprès de son Père. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse pendant cette journée. Allez dans sa paix, car il est proche de vous. Amen.